Radio Stable.
Morning Edition from NPR News.
Un sentiment de la radio.
Radio Rosana Piperino.
Que se reproduce en este en la radio.
France Inter. Le 18-20.
Nous devons d'expliquer aux gens notre réalité. On lave le linge à la main. Nous n'avons même pas de machine à laver. Dans un hôpital qui est la référence.
Dans un hôpital de Bolivie, les médecins sont tellement désemparés, faute de moyens, qu'ils font visiter leurs hôpitaux et vous les visiterez aussi. Ce sera l'escale reportage ce soir. Sous les radars et Virginie Pironon en Chine, à Moscou et dans les îles Tonga, vous l'avez entendu. 18h50, le cinéma en VO et Eva Béton avec deux films à l'approche des Oscars, notamment La Favorite et ses 10 nominations. 18h55, Le Monde à l'envers de Jean-Marc Four et ce Donald Trump qui est un chic type, tiens, tout bien considéré, tout compté. Un mois peut-être que la campagne est déjà commencée. Mais avant, c'est vers le Luxembourg que nous allons pour une drôle d'histoire. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
D'habitude, quand on vous reçoit, François Hesbourg, c'est pour parler défense, sécurité, terrorisme. Donc plus souvent dans des moments assez tragiques pour la France et dans le monde. On ne va pas parler de choses légères ici, loin de là. Mais votre histoire, qui est aussi une histoire de famille, c'est une histoire de choix et de bons choix. Et ça peut finalement être une vraie histoire positive. Bonsoir à vous.
Oui, bonsoir. C'est une belle histoire. Et d'abord parce que effectivement les héros un peu étranges qui est au centre de ce livre sauve plusieurs centaines de juifs de l'ordre de 500 dans un pays où il y en avait à peu près 4000, hein, c'est-à-dire à peu près 2000, pardon. Donc à peu près
donc le pourcentage est très haut.
Donc le pourcentage est très haut et cet homme était par ailleurs non seulement un militaire, mais aussi un nazi.
Alors, on va y venir une chose après l'autre, François Hesbourg. Le livre, d'abord, s'appelle « Cet étrange nazi qui sauva mon père ». C'est pour ça aussi que ça a une résonance particulière, évidemment, pour vous. Ce monsieur s'appelle le baron von Honingen, on va le prononcer comme ça. Avant de raconter son histoire, de raconter comment il a sauvé ses juifs, il faudrait que vous nous expliquiez comment vous êtes entré dans la vie de cet homme, vous. Parce que on apprend au fil de votre livre que c'est un vrai taiseux. Donc, il a fallu aller le chercher, le personnage. Donc, comment vous le rencontrez? Comment vous savez d'abord, à un moment, qu'il est dans votre histoire familiale aussi?
Et d'abord, je l'apprends très tard, parce que la génération des gens qui ont traversé la guerre étaient très souvent une génération de taiseux. Et les gens ne se livraient pas facilement. Ils voulaient dépasser les malheurs qu'ils avaient vécus. Et c'est seulement vers la fin de sa vie que mon père commence à raconter son aventure et la manière dont cet homme, le baron von Honingen, l'a sauvé lui. Mais il ne savait pas, et je ne savais pas à ce moment-là, que ce baron avait en fait sauvé beaucoup plus de monde, qu'il avait sauvé de l'ordre de 500 personnes. Et tout ceci dans un pays, Luxembourg, qui, comme l'Alsace et la Lorraine, avait été annexé par les Allemands, où la société avait été broyée par le totalitarisme nazi, d'une façon dont les Français de l'intérieur, comme on dit dans l'Est de la France, n'ont pas forcément toujours conscience. Et là aussi, les gens sont taiseux. Et enfin, la famille, le baron lui-même et la famille du baron étaient extraordinairement taiseux. Et il m'a fallu des années de travail dans les archives, en Allemagne, en France, au Luxembourg, pour, en quelque sorte,
refaire le fil.
Retrouver le fil, effeuiller le chou-fleur, l'artichaut, si je puis dire, et arriver à tenter de cerner cet homme.
Alors, retournons un peu en arrière. Effectivement, d'abord, il est né en Alsace, mais donc en Allemagne, à l'époque. C'est un monsieur qui fait la guerre de 14, qui s'y distingue. Il quitte le service en 1920. Il fait plutôt un beau mariage, s'installe au Luxembourg. Mais j'ai envie de dire quand même, c'est une sorte de destin allemand sans vague particulière à ce moment-là. D'où votre étonnement, en 1933, il adhère au parti nazi.
Absolument.
Et personne ne lui demande rien. Il est absolument obligé de rien. Voilà un monsieur qui adhère au parti nazi, content de lui, en fait, d'une certaine
tout
façon.
Tout à fait content de lui. Et dans les deux années qui suivent, sa femme aussi rejoint les nazis, femme luxembourgeoise en l'occurrence. Grosse fortune. Et il réaffirme sa volonté de servir le Reich.
Et pire que ça même, parce que quand la Wehrmacht est créée, il veut rentrer dans la Wehrmacht.
Il veut retourner dans la Wehrmacht en mettant en avant le fait qu'il était un pur arien, comme sa femme. Et donc voilà cet homme.
Et qu'il est membre de l'EDA, pardon, mais j'insiste, voilà, parce que il faut appuyer sur ce sacré personnage, parce que il va sauver des juifs à un moment, mais voilà un gars qui adhère au parti nazi, ouais, qui veut rentrer dans la Wehrmacht, qui est membre de l'EDA, qui est ultranationaliste et antisémite.
Absolument. Voilà, il a tous les défauts.
Ben voilà.
Et dès juin 40, dès le début de l'occupation, et il va se mettre délibérément, de façon active, à sauver la communauté, une grosse partie de la communauté juive, a aidé aussi des résistants, dont mon père et un de ses amis. J'en ai pas retrouvé d'autres, mais il est tout à fait possible qu'il y en ait d'autres. Et je ne suis pas arrivé à savoir quand il a été, comme je l'ai dit à un moment donné, je suis pas croyant religieusement, mais il est visiblement frappé par la grâce, à un moment donné.
Ouais, je me souviens très bien de ce passage-là, parce que je me souviens, c'est page 64, vous voyez. On ne comprend pas très bien à quel moment il se détache des thèses nazies. En fait, qu'est-ce qui se passe? Quel est l'événement qui fait qu'il commence à regarder les choses très différemment?
Alors, on ne sait pas si c'est déclenché d'abord par le refus des autorités allemandes de le réintégrer dans la Wehrmacht. Il a pu subir une blessure d'amour propre, ça c'est tout à fait possible. Mais le fait est que en 38-39, il vire sa cutie, et en 40, il est un résistant. C'est une situation tout à fait extraordinaire.
C'est lui qui fait des papiers. Et c'est grâce à ça qu'il arrive à faire sortir les Juifs de Luxembourg. Parce que c'est lui qui signe les autorisations de sortie, les laissez-passer. Exactement.
Il signe les laissez-passer, il le fait sans aucun esprit de lucre. Ça, j'ai pu le démontrer non seulement à travers l'aventure de mon père, qui avait gardé toutes sortes de documents, mais aussi à travers les données fiscales que j'ai pu récupérer sur le baron. Le gars ne s'est pas enrichi pendant la guerre. Et donc, il fait ça par humanité. Bon, jusque-là, c'est une aventure, et comme il en existe quelques autres dans le Reich, il y a au moins un officier allemand qui a été reconnu comme juste entre les nations à Yad Vashem. J'espère que lui sera le second. Mais alors, ce qui rend le personnage encore plus étrange, c'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il passe à travers toutes les tempêtes. Ouais. Et un peu comme, vous savez, ce personnage de dessin animé, Mr. Magoo, ce personnage myope qui passe à travers les ponts qui les immeubles qui s'effondrent, les ponts qui se cassent la figure et ainsi de suite. Alors lui, il va passer en cour martial, il va être théoriquement envoyé aux travaux forcés, et il aurait dû être condamné à mort, pour faire court.
Parce que, pardonnez-moi de le dire comme ça, il avait une grande gueule aussi. Et c'est comme ça qu'il a frôlé la cour martiale, on va dire. Parce qu'en allant bêtement au restaurant avec l'un de ses collègues, il explique que, de toute façon, la victoire de l'Allemagne a zéro chance, que la campagne de Russie, c'est n'importe quoi. Il sera donc dénoncé par ce gars-là. C'est comme ça qu'il se retrouve en cour martiale. Et là aussi, il passe à travers les gouttes.
Il passe donc, à travers les gouttes et il va finir, c'était extravagant, il va s'évader de Berlin au début du mois de septembre 44, et la Gestapo devait le récupérer à l'endroit où il était détenu, un hôpital, le chirurgien en chef organise son évasion de l'hôpital, et il parvient à traverser l'Allemagne, et en pleine guerre, en pleine répression contre les généraux qui avaient comploté contre Hitler, il arrive à la frontière du Luxembourg et de l'Allemagne, et au moment où les troupes américaines arrivent d'un côté de la Moselle et les Allemands se retirent de l'autre côté. Ils traversent la rivière à la nage, la nuit, et ils finissent par retrouver femme et foyer sans même passer par la case prisonnier de guerre. Ce type a un culot et une chance absolument extravagante, et grande gueule et taiseux à la fois, et aventurier et discret en même temps. C'est un profil psychologique, j'avoue que je ne suis jamais tombé sur un personnage aussi étrange que celui-là, lorsque je regarde ce qui a pu se passer pendant la Deuxième Guerre mondiale. Étrange, mais juste.
Et c'est ce que vous racontez au fond. Comme vous dites, il finit cette guerre, il se retrouve, il retrouve femme et enfant, effectivement, mais au fond, à l'image de ce pays, le Luxembourg, qui, au retour de la guerre, se retrouve un peu à l'image de ce qu'il était avant le déclenchement de la guerre. Donc on a l'impression finalement que ce monsieur se fond avec le pays qui est le sien, ce petit pays discret, au fond, qu'est le Luxembourg.
Il revient à sa vie d'avant-guerre, mais c'est plus compliqué que ça. Mmh. Il n'est pas luxembourgeois. Il est allemand.
C'est vrai.
Il est prussien. Sa femme est luxembourgeoise.
Et il vivait sur la frontière entre Luxembourg et l'Allemagne.
Voilà. Et donc, il vit ses 30 dernières années, après la Deuxième Guerre mondiale, essentiellement au Luxembourg, mais sans se faire connaître. Mmh. Sa femme sort en ville, elle reçoit, il ne sort pas en ville. Mon père, qui l'avait sauvé, ne savait pas qu'il habitait à 800 mètres
de chez lui.
Et on a découvert, après coup, qu'ils ont été enterrés l'un à 40 mètres de l'autre. Et donc des destins qui se sont à un moment donné croisés et puis totalement décroisés.
Je vous posais la question parce que vous avez ces lignes-là en parlant effectivement du Luxembourg et aussi donc de ce personnage. Vous dites à la Libération, le pays retrouve le même souverain, le même Premier ministre, en grande partie le même gouvernement qu'à la veille de la guerre. Cependant, il fallait réapprendre à vivre ensemble, en famille, au bureau, dans un pays où il est difficile de se fondre dans l'anonymat de la foule. Donc on parlait de ce passé le moins possible. L'ostracisme était pratiqué et l'est probablement encore à l'encontre de ceux qui s'étaient mal tenus, mais lui sera silencieux. Au fond, c'est aussi l'étroitesse et la petitesse de ce pays et ce qu'il a traversé qui a fait que, à l'image de ce pays, von Honingen a continué sa vie sans rien dire jusqu'à sa mort, en fait.
Sans rien dire et avec une famille essentiellement allemande et qui est elle-même extraordinairement taiseuse et parfois, pour des raisons qui ne sont probablement pas très nobles. Mmh. C'est une famille de la noblesse, mais si Honingen, lui, a été d'une très grande noblesse de caractère pendant la guerre, pour faire ce qu'il a fait, en Allemagne, il existe encore des gens pour lesquels les conjurés contre Hitler n'étaient pas des patriotes, mais plutôt des traîtres. Et Honingen a été raccroché au complot contre Hitler, c'est pour ça que la Gestapo voulait l'attraper en septembre 1944.
Raccroché, mais il y a eu zéro preuve, on ne sait pas au fond, parce qu'il a croisé, comment s'appelle-t-il
Jens Jensen.
Oui, Jens Jensen.
On sait que les deux ont travaillé ensemble à organiser les voyages des généraux conjurés dans l'Europe occupée. Pour cela, il fallait des laissez-passer. Or, à ce moment-là, il était responsable au quartier général allemand à Berlin des laissez-passer.
Sauf qu'il n'est pas sur la liste des nazis, au fond, en fait. C'est peut-être pour ça aussi qu'il arrive à passer entre les mailles du filet.
Il y a un moment où cet homme fait adhésion au nazisme de façon explicite, sans que personne l'y oblige, d'un acte volontaire, etc. Et quelques années plus tard, il s'en désolidarise et de la manière la plus forte et en même temps la moins spectaculaire. Mmh. C'est-à-dire qu'il arrive à sauver ces gens et sans faire de bruit. Et puis alors, de temps en temps, il perd sa retenue. Mmh. Et vous parliez de grande gueule. Oui, il y a cette scène dans un restaurant parisien où il se met il n'y a pas d'autre mot, à déblatérer contre Hitler et ses œuvres. Et il remet ça l'année suivante à Berlin. Et à ce moment-là, il n'est plus possible pour les militaires qui l'aimaient bien de le protéger par rapport à la Gestapo.
Alors, il n'est pas tout seul cet endroit stratégique, c'est-à-dire faire des papiers, des laissez-passer. Ouais. Vous appelez ça le club des sauveurs, en fait. Vous parlez du club des sauveurs et du cercle des sauvés. Parce qu'il y en a un certain nombre. L'histoire en a retenu quelques-uns. Ouais. Pas lui, en effet, mais l'histoire en a retenu quelques-uns, effectivement.
Alors,
le
club des sauveurs, on va retrouver dans les premiers temps un consul américain, puisque jusqu'au milieu de l'année 41, et les Américains avaient encore des consulats en Europe occupée et en Allemagne. Honingen travaille de connivence avec le consul.
Avec Platt-Waller, c'est celui-là dont vous
parlez. Platt-Waller, ça va être George Platt-Waller, personnage par ailleurs humainement pas forcément très intéressant, mais qui là encore, comme Honingen, et il va être piqué par le virus et de l'action humanitaire. Ce que nous avons dit jusqu'à présent sur Honingen, ou ce qu'on est en train de dire sur Platt-Waller, c'est qu'en fait, ces types-là n'étaient pas forcément très intéressants. Mm-hmm. Honingen n'était pas drôle.
C'est le principe du héros, c'est un homme ordinaire qui fait quelque chose d'extraordinaire.
Il avait des traits de caractère d'une banalité confondante, et pareil pour l'Américain. Mais face à l'épreuve, ils vont faire des choses étonnantes, et non pas parce qu'ils s'aiment, parce qu'après la guerre, ils ne se revoient plus. Absolument. Non plus. Mmh. Ils font ça non pas parce qu'ils s'aiment entre eux, ils font ça parce qu'ils considèrent que c'est leur devoir. C'est la banalité du bien.
Exactement, c'est ce que vous dites pour le contrebalancer avec cette banalité. Absolument. Du mal d'Hannah Arendt. C'est à découvrir, en tout cas, y compris d'ailleurs, essayer de comprendre cette banalité du bien et comment finalement on finit par faire le bon choix à un moment dans son histoire et dans l'histoire de son pays. Ça s'appelle « Cet étrange nazi qui sauva mon père ». C'est aux éditions Stock, signé François Hesbourg. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci mille fois.
France Inter. Fabienne Saintès, Un jour dans le monde.
La suite, c'est en Bolivie, avec l'état des hôpitaux si désastreux que les médecins en font une journée portes ouvertes sous les radars, notamment avec les îles Tonga qui ont enfin retrouvé Internet, le cinéma en VO et Eva Bétan. Eva, à l'approche des Oscars, deux films dont la favorite que vous avez vue.
Oui, il y a un Grec qui va aux Oscars, c'est Yorgos Lanthimos, et un Mexicain qui reste chez lui au Mexique, Carlos Regadas.
Et on voit ça ensemble tout à l'heure, Le Monde à l'envers. Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Mais quel chic type alors ce Donald Trump.
Mais oui, je l'ai vu hier soir pour le discours de l'État sur l'Union, il est sympa.
Eh ben écoutez, tant mieux, vous viendrez nous raconter ça. En attendant, le tour de la planète continue. Il passe, tiens, par les États-Unis. Creedence Clearwater Revival, Suzy Q. Thank you. Creedence Clearwater Revival, Suzy Q, c'est sur France Inter.
Hello.
France Inter.
Good evening and welcome.
Je размахивал копьем.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sous les radars et Virginie Pironon. Virginie, vous nous emmenez ce soir en Chine, dans la province de Zhejiang, où des centaines de milliers de Ouïghours, peut-être même jusqu'à 1 million selon les ONG, seraient internés dans des camps.
C'est 10% de la population de la province. Les Ouïghours, peuple turcophone musulman, sont depuis toujours la cible du régime communiste et le programme de déradicalisation lancé par Pékin inquiète de plus en plus les défenseurs des droits de l'homme. Ils ont manifesté hier devant le siège de l'ONU à New York.
We documented torture. We documented ill treatment. Several of our interviewees
Sophie Richardson, responsable de Human Rights Watch en Chine, dénonce des faits de torture, de mauvais traitements. L'organisation a collecté des dizaines de témoignages, endoctrinement forcé, cours en mandarin sur les dangers des idées islamistes. Tout est fait dans ces camps pour briser les Ouïghours, leur langue, leur culture, leur religion, à tel point que certains peuvent aller jusqu'au suicide. La seule façon de sortir, c'est de montrer à quel point on a été bien rééduqué et qu'on sera fidèle au gouvernement. Voilà ce que ça donne. À la télévision chinoise, dans ce qui semble être une sorte de cérémonie de sortie de camp, ce jeune Ouïghour explique à quel point il a appris de ses erreurs passées. À partir de maintenant, il est un bon citoyen, dit-il, et portera la parole du régime autour de lui. Le gouverneur du Xinjiang, évidemment, approuve la méthode employée dans ses centres de formation à vocation éducative, selon la terminologie de Pékin. L'éducation, les cours, dit-il, sont très utiles dans la lutte contre le terrorisme, pour la stabilité du pays, contre les extrémismes. Il ajoute qu'il faut nettoyer l'atmosphère et la terre de ce que le terrorisme et l'extrémisme peuvent engendrer. Alors pour les défenseurs des droits de l'homme, les exactions sont si graves en ce moment que la communauté internationale doit réagir. Elles ont demandé cette semaine à l'ONU la création d'une commission d'enquête au Xinjiang. Réponse de Pékin, des responsables de l'ONU seront accueillis s'ils évitent de s'immiscer dans les affaires intérieures du
pays. La direction maintenant Moscou, Virginie. On parlait de mobilier, tiens, tout à l'heure dans le journal. Voilà ici que le mobilier soviétique redevient furieusement tendance.
Avis aux nostalgiques. Depuis la chute du régime communiste, tout ce qui ressemblait de près ou de loin à une lampe poussiéreuse en tissu, de vieilles poignées de porte en laiton ou des patères pour suspendre les lourds manteaux d'hiver, eh bien tout cela a été boudé par les jeunes. C'est terminé maintenant. C'est vintage, Fabienne. Le design soviétique est en train de faire son retour en Russie, avec notamment des formations spécifiques dans les écoles ou encore le développement d'ateliers de restauration d'objets anciens. Alors, c'est ce qu'explique ce jeune historien spécialiste du mobilier soviétique. La majorité des jeunes, dit-il, commence à comprendre qu'avoir un vieux placard de sa grand-mère à la maison n'est pas une honte, non, non, mais au contraire, c'est un symbole d'avancement, mieux s'emparer du passé pour se tourner vers l'avenir.
Allez, aux îles Tonga, on en avait parlé ici même lorsque les liaisons ont sauté. Les habitants ne sont pas franchement ou différemment, on va dire, projetés vers le futur. Et ils sont revenus l'espace d'un instant à l'âge de pierre.
Ils ont eu tout le temps, Fabienne, en effet, de reprendre des airs de chant traditionnels ces deux dernières semaines. Ils se sont beaucoup amusés, apparemment. Panne géante d'Internet, donc, vous l'avez dit. Les habitants des 170 îles du royaume, 110 000 personnes, ont dû tenir 13 jours de noir virtuel.
On en connaît qui serait sous tente à oxygène. Hein.
Ah bah, dans un premier temps, je peux vous dire que ça a été la panique sur place. Hein. Les entreprises étaient à l'arrêt, il y a eu des problèmes de ravitaillement, pénurie de médicaments. Mais une fois qu'une connexion très limitée par satellite a été mise en place et que les autorités ont pu pallier aux urgences, eh bien finalement, les habitants ont fini par trouver que c'était pas si mal d'être privé de Facebook ou de YouTube. On a appris à se parler, disent-ils, sans messagerie. Il paraît que les bars n'ont jamais été aussi pleins. Alors, c'est presque dommage, hein, la panne a fini par être réparée. Pour l'anecdote, le câble fait 827 km de long.
Le nick câble.
On comprend que ça fait que ça ait duré un petit peu. La cause exacte de cet incident n'a pas été identifiée, mais l'hypothèse d'une ancre de navire qui aurait arraché le câble semble la plus plausible.
Allez, Virginie Pironon, sous les radars tous les jours dans Un jour dans le monde. Merci Virginie.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Pékin,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth, France Inter.
Et c'est en Bolivie que nous emmène l'escale reportage d'Un jour dans le monde. Depuis le 1er janvier, les Boliviens peuvent bénéficier d'une couverture universelle de santé gratuite. Donc tout le monde peut accéder aux soins. En principe, parce que dans les faits, les hôpitaux sont surchargés, manque de moyens, matériel obsolète. Bonjour Alice Campagnol.
Bonsoir Fabienne.
Bonsoir. Les médecins veulent alerter Alice sur leur situation. Ils descendent dans la rue, ils ouvrent surtout les portes de leurs établissements pour montrer la réalité de l'hôpital public. Vous nous emmenez, Alice, ce soir, visiter un hôpital de la Basse.
Oui Fabienne, ici nous sommes au cœur de la salle de soins intensifs de l'hôpital public des enfants. Tous les lits sont occupés, à peine 9 places quand il en faudrait au moins le double. Victor Urquieta est chef de service.
En réalité, cette salle a plus de 30 ans. Évidemment, les équipements se détériorent. On doit les renouveler en permanence. Des ventilateurs, des appareils de contrôle, des pompes à perfusion. Et c'est tout le temps plein. Pire, nous avons des patients qui attendent pour être opérés en salle de pédiatrie, pour ensuite être admis ici, en soins intensifs. Et je ne parle que des patients de l'hôpital.
La situation est la même dans tous les services, orthopédie, traumatologie, urgence, bien sûr, etc. Cet établissement, pourtant, est l'hôpital de référence pour une zone de plus de 2 millions d'habitants. Célia Limachi est infirmière ici.
Nous avons 160 lits et ils sont tous occupés. Comme c'est un hôpital de référence au niveau national, les patients viennent de partout. Et parfois, on doit donner la priorité à ceux qui viennent de loin. Et ceux qui sont ici, on leur dit de revenir. Mais pendant combien de temps peut-on retarder les traitements de ces patients ?
Mais ce ne sont pas seulement les lits qui manquent, le personnel et l'espace font aussi défaut.
L'OMS nous dit qu'une infirmière devrait être en charge de 8 patients. Mais ici, c'est le double, une infirmière pour 14, voire 16. Selon les normes internationales, il faudrait entre chaque patient 1 mètre ou 1 mètre et demi pour éviter les infections nosocomiales. Mais voyez par vous-même, il n'y a rien qui sépare les patients, seulement une table de nuit.
Ce que l'on entend derrière cette professionnelle, ce sont des machines à écrire. Ici, pas d'ordinateur, on tape à la machine les rapports médicaux et les ordonnances. À la laverie de l'hôpital, le constat est alarmant, de grands bacs et des personnels qui lavent à la main. Et dans la cour, le linge sèche à l'air libre. Aujourd'hui, si Célia fait visiter son établissement, c'est pour dénoncer les conditions déplorables qui s'imposent au personnel et aux patients de l'hôpital public. L'infirmière fait partie, avec la docteure Nilsa Selaya, du syndicat des personnels médicaux de la santé publique.
Nous nous devons d'expliquer aux gens notre réalité. Et notre réalité, c'est celle-ci. Nous venons de passer par la blanchisserie où on lave le linge à la main. Nous n'avons même pas de machine à laver, vous imaginez ? Dans un hôpital qui est la référence, on reçoit des gens de tout le pays. Nous devons nous faire entendre.
Le système de sécurité sociale en Bolivie fonctionne par caisse selon les secteurs professionnels, les mineurs, les étudiants, les employés du bâtiment, etc. Et avec le prestige de l'emploi vient une meilleure sécurité sociale. Le docteur Rossel, par exemple, après être passé par le public, travaille pour la Caisse des banquiers, l'une des meilleures couvertures boliviennes.
Ici, nous avons une infrastructure adéquate qui est conforme avec les normes internationales et qui correspond aux critères de qualité pour un établissement de santé. Par exemple, nous venons de pratiquer une chirurgie à cœur ouvert sur un nourrisson de 2 mois. Nous bénéficions donc d'une technologie de pointe. Nous avons également assez de personnel pour fournir l'attention nécessaire aux assurés.
Son établissement flambant neuf n'a rien à envier à une clinique privée européenne. Oui, mais voilà, ses services sont réservés à peu d'élus. Aujourd'hui, environ 50% de la population n'a pas accès aux soins car une grande partie des Boliviens travaillent sans être déclarés, donc eh bien pas d'affiliation à une sécurité sociale. Quant au secteur public, il se charge gratuitement des plus vulnérables, soit les enfants de moins de 5 ans, les personnes âgées ou handicapées. Alors eh bien, Evo Morales a décidé la mise en place du système unique de santé en 2019, soit l'accès gratuit aux soins pour tous. Depuis le 1er janvier, donc, il serait déjà plus de 500 000 à s'être inscrits. Mais déjà surchargé, l'hôpital public se demande donc comment accueillir encore plus de patients. Alors aujourd'hui et depuis plusieurs semaines, les professionnels de santé manifestent. Edgar Villegas du Collège des médecins de La Paz.
Le problème, c'est qu'il n'y a pas les moyens ni les structures adéquates pour prendre en charge environ 5 millions de Boliviens qui n'ont aucune protection sociale.
Les personnels de santé bloquent les grandes artères de La Paz avec du matériel médical, mais pas n'importe lequel, du matériel qui date. Des couveuses qui ont plus de 40 ans, des aspirateurs des années 60, des brancards éventrés. Les médecins veulent montrer très concrètement leur situation. Et s'ils assurent ne pas être contre une couverture universelle, ils demandent, pour la mettre en œuvre, plus de budget et de nouvelles infrastructures et dénoncent une décision électoraliste de la part du président. À voir désormais comment l'hôpital public pourra tenir le coup face à l'afflux de nouveaux patients.
Il est signé Alice Campagnol, ce reportage à La Paz en Bolivie. Merci beaucoup. Léonie Perret est sur France Inter, ça s'appelle Butterfly. Béton de points, ça suffit, non, pour le disque? Bah oui, Eva, enfin, ne soyez pas si pressée, Léonie Pernet sur France Inter. 3,
2, 1, Winter. France Inter.
Movies are made of light.
Le 18-20.
Appelons ensemble votre jury.
And the winner is...
Un jour dans le monde.
Eva Béton, voilà, oui. On va parler cinéma, ne vous inquiétez de rien. Deux films pour le prix d'un, Eva, ce mercredi. Oui. L'un d'eux est grec, c'est l'un des favoris pour les prochains Oscars. Il est signé Yorgos Lanthimos, ça s'appelle La Favorite, 10 nominations. Mm-hmm. Un petit bout de bande-annonce, on parlera du suivant juste après.
The Queen is an extraordinary person. They were all staring, weren't they? I can tell even if I can't see, and I heard the word fat, fat, and ugly.
No one but me would dare, and I did not.
She's been stalked by tragedy.
Everyone leaves me. Dies.
Alors, La Favorite, on a tous très 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 envie, il va falloir nous dire si on a raison ou pas, Eva. L'autre film dont vous voulez nous parler, je le dis tout de suite, c'est un film mexicain, Carlos Reidadas.
Ça c'est le réalisateur,
Bien sûr, oui, merci, son film s'appelle Nuestro Tiempo. Et lui, il veut pas entendre parler des États-Unis.
Alors, j'arrive à finir la chronique, mais alors, je trouve que c'est un peu arbitraire de les rapprocher. Il se trouve qu'ils sont en même temps à l'antenne, mais en même temps, c'est intéressant. Il s'agit de deux chéris des festivals de cinéma. Tous deux, à leur manière, sont géniaux, génialement frappés. Si je veux dire, mais frappés, il faut bien comprendre que c'est un compliment. Quand on parle des films de Yorgos Lanthimos, l'adjectif qui vient le plus souvent, c'est weird, bizarre, mm-hmm. étrange. Je donne un exemple. The Lobster, un de ses films, ouais. dans un futur proche, quand on était célibataire, on n'avait pas le droit. Oui, eh bien, on était transformé en animal, un animal de son choix quand même. Donc là, il s'essaye au film d'époque, c'était à la cour d'Angleterre, au XVIIIe siècle, et deux suivantes se disputent les faveurs de la reine jusqu'à aller dans son lit. Le pouvoir côté femme demeure le pouvoir. Yorgos Lanthimos avec Corinne Pellissier, extrait de l'interview.
Of course, it's a movie about power and politics and how society is organized and how.
C'est bien sûr un film sur le pouvoir, la politique, sur l'organisation de la société et sur la manière dont le pouvoir que détiennent quelques personnes affecte la société. Mais ce qui fait que ce film est différent, c'est que je regarde ces sujets par le versant intime, personnel.
The personal aspect of it, the intimate aspect of it, because.
Parce que ces trois femmes entretiennent des relations risquées, chacune veut une chose différente et elles ont toutes quelque chose à perdre. C'est à travers cela que l'on voit l'impact sur les autres de personnes détenant le pouvoir.
Alors, il fait pas un film poli, hein. Il y a du sang, il y a du vomi, la reine à la goutte, mais c'est son film le plus commercial et le plus accessible. Il est Oscar compatible, pourquoi ? Un, il tourne en anglais, c'est déjà son troisième film en anglais. Deuxièmement, il fait tourner des stars, Emma Stone dans ce film, Nicole Kidman dans un autre. Et puis, il est distribué par un distributeur américain qui a du nez, c'est Fox Searchlight, qui avait déjà eu l'Oscar avec deux outsiders de poids, 12 Years of a Slave du Britannique Steve McQueen et La forme de l'eau du Mexicain Guillermo del Toro.
Alors, pour Carlos Regadas, qui est donc un réalisateur mexicain,
c'est cela même.
Eva, dont le film s'appelle Nuestro Tiempo,
encore cela,
et qui sort donc aujourd'hui, les États-Unis ne sont pas le Graal, et c'est intéressant à dire aujourd'hui que les États-Unis ne sont pas le Graal pour le Mexique.
Oui, et c'est vraiment intéressant parce que Regadas, dès son premier film, Rapone, on se dit, mais qui est ce type-là ? Il y a une sorte d'ampleur, par moments c'est provoquant, c'est quelque chose d'assez incroyable. J'en ai parlé à 13h, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Dans l'intime, l'histoire de couple en crise, il arrive à mettre toute la dimension de son cinéma. Lui, il refuse le format. Son film fait 3 heures s'il a envie, et ben d'ailleurs celui-ci fait 3 heures. Une ouverture d'une demi-heure, c'est magnifique, il y a une ouverture d'une demi-heure. Il tourne chez lui en espagnol, il préfère les acteurs non professionnels. Il garde la maison Mexique quand tous les autres grands Mexicains sont allés aux États-Unis. Cuarón, Guillermo del Toro, Iñárritu, Trump peut être assuré, Regadas ne franchira pas la frontière.
Parce que j'aime pas la nourriture aux États-Unis.
Pas seulement.
Pas seulement. Il y a plus. Non. A mí me gusta hacer las películas que yo quiero.
Je veux faire les films que j'ai envie de faire et je n'ai pas besoin pour cela d'aller à Hollywood. Bien sûr, je gagnerai beaucoup plus d'argent. Il faut reconnaître que c'est difficile de vivre du type de cinéma que je fais. Mais ça ne m'intéresse pas. Je ne pourrais pas faire à Hollywood le cinéma qui m'intéresse. Les acteurs ne m'intéressent pas. Et si vous ne construisez pas votre film autour d'eux, comme cela se fait à Hollywood, alors c'est vous qui ne les intéressez pas. Nous avons parlé de Bresson, d'acteurs en tant qu'êtres humains qui apportent leur présence dans les rôles qu'ils interprètent. C'est cela qui m'intéresse.
Vous disiez que les acteurs américains ne vous intéressent pas ?
Non. No, las estrellas no me interesan en las películas.
Les stars ne m'intéressent pas dans les films. Je trouve que les stars, les visages connus, réduisent la puissance du cinéma. Le cinéma a à voir avec la présence. Et ces visages connus ne sont plus des présences.
Las estrellas son metacinematográficas.
Voilà. Eh ben, vous êtes métacinématographique.
Mais moi, au contraire, je pourrais faire du cinéma avec ce monsieur, mais une seule fois, parce qu'après.
Une seule fois.
Allez, ben, merci beaucoup. À la semaine prochaine.
Le 18-20, Fabienne Saint-Esse, sur France Inter.
Le monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, vous avez écouté attentivement le discours annuel donc sur l'état de l'Union par Donald Trump, un moment important comme à chaque fois dans la vie de la politique américaine. Mais après ce discours, vous vous dites Trump est donc un chic type et c'est votre monde à l'envers.
Imaginons Fabienne que depuis un peu plus de 2 ans, vous avez hiberné ou alors que vous êtes parti sur Mars. Et alors hier soir, vous sortez de la congélation ou alors de votre navette spatiale, vous lancez Internet ou la télé et vous regardez le discours de Donald Trump que vous ne connaissez pas.
Non.
Et là, vous vous dites, bah, il est plutôt
sympa.
Et bien coiffé.
D'abord, la forme, 1h20 de discours, clair, calme, posé, une capacité à improviser, une pointe d'humour, voire une capacité à se moquer de lui-même. Et puis, sur le fond, des suggestions intéressantes sur les sujets de société. D'abord, baisser le coût des médicaments, éradiquer le sida, engager un plan de lutte contre les cancers des enfants, développer l'emploi des femmes. Applaudissements nourris du Congrès. Sur les enjeux internationaux ensuite, avec cette formule, les grandes nations ne livrent pas des guerres sans fin. Respect, on a connu pas mal de présidents américains va-t-en guerre, donc il faut saluer cet engagement. Trump confirme le retrait d'Afghanistan, annonce un nouveau sommet fin février avec le Nord-Coréen Kim, et si ça marchait ? En plus, il tend la main à ses adversaires politiques avec un appel à l'unité, à la paix, au consensus, je cite, dans l'intérêt du peuple américain. Selon un sondage de la chaîne CBS, les trois quarts des téléspectateurs ont apprécié ce discours. Donc oui, j'arrive de Mars, je vous assure, hein, si je suis honnête, je dis ce type est sympa.
Donc en même temps, on n'arrive pas de Mars, et il se passe quoi ? Quelque chose a changé, vous nous dites ?
Ben, on peut examiner l'hypothèse, non sérieusement, on peut examiner l'hypothèse qu'il ait réellement changé. Pour avoir une chance de comprendre le Donald Trump, il faut d'abord aller sur son compte Twitter. Alors le voici, je vous le montre d'ailleurs ici en studio, vous pouvez aller voir, hein, depuis ce matin, son fond d'écran n'est plus le même. Ah, regardez, bon. Maintenant c'est une vision panoramique de l'ensemble des élus du Congrès pendant le discours de la nuit dernière. Si. Comme si c'était une conversion à la démocratie parlementaire et au dialogue. Il y a peut-être une explication. Pourquoi vouloir être aujourd'hui un chic type ? D'abord, Donald Trump n'aime rien tant que le spectacle. Pas certain qu'il aime être président, mais il adore sans aucun doute faire président. Et un discours de ce type, ça fait président. Ensuite, faire président, c'est le meilleur moyen de faire campagne pour décrocher un deuxième mandat dans un an et demi. Et Trump adore faire campagne. Il ne faut pas le sous-estimer. Il peut avoir tiré une leçon de l'échec de son bras de fer avec l'opposition démocrate sur le shutdown. Il est capable de faire évoluer son positionnement politique pour élargir son socle électoral. Je m'explique. Aujourd'hui, il bénéficie d'une adhésion sans faille, on le sait, de ses supporters. Mais ses supporters, ça fait que grosso modo 30% de l'électorat, c'est pas assez pour gagner. Pour l'emporter, il peut donc essayer de recentrer un peu son discours sur un mode plus consensuel, plus chic type. Tout en misant sur une radicalisation de l'opposition démocrate en face, une radicalisation vers la gauche qui pourrait justement avoir un effet repoussoir au centre. Vous me suivez ? Dans cette hypothèse, alors il faudra se souvenir que le chic type de la nuit dernière, c'était l'acte fondateur du début de sa nouvelle campagne plus centriste.
Donc, on ne l'aurait changé.
Bon, c'est pas non plus, j'ai pas dit ça. Je parle d'un positionnement tactique surtout, parce que chasser le naturel, il revient au galop. Lors de ce discours, Trump en a quand même remis une couche à coups de fausses informations sur l'immigration ou l'avortement. Il a évidemment envoyé une pique aux enquêteurs qui le traquent, on pense en particulier au procureur Mueller. Et puis, quelques heures plus tôt, hier après-midi, Trump avait traité de nom d'oiseau plusieurs leaders de l'opposition démocrate. Schumer est méchant, Biden est un imbécile. Etc. On ne se refait pas. En plus, le président américain nous a déjà fait le coup, et c'était quand ? C'était il y a un an pile, lors du précédent discours sur l'état de l'Union. Ouais, il avait alors annoncé une ambitieuse démarche bipartisane sur de grands travaux d'infrastructure ou sur l'immigration. On connaît la suite, on a déjà payé pour voir. Donc on se résume, la nuit dernière, c'était l'heure du chic type. Si ça doit continuer, alors là, pour le coup, on se dira qu'on est vraiment sur Mars, oui.
Eh ben, on verra ça. Remarquez, on va sur la Lune, au téléphone sonne, donc l'un dans l'autre. Vous voyez, allez, Jean-Marc Faure, merci beaucoup. Le Monde à l'envers, c'est tous les jours dans Un jour dans le monde. On reste ensemble, le téléphone sonne et le journal de Sébastien Paour.